invité Laurent Maurice Lafontan et Alicia Kazobinka, les deux de la 13e édition de l'événement Massimadi. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? La Fondation Massimadi a pour mission de promouvoir la culture et les arts des communautés noires LGBTQ+, comme vecteur de changement social dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie et moyen d'intégration des personnes LGBTQ+ afro. Alors, à vous deux, je dis bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, bonjour, Monsieur Saint-Fleur.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien.
Oui, toujours en forme. Alicia?
Oui, ça va très bien, merci.
Alors, et ce qui est fascinant, c'est que le festival se termine bientôt. D'accord. Alors, Laurent, quel bilan vous en faites depuis le 12 février?
Ben, nous sommes très satisfaits sur plusieurs points. On a réussi à rejoindre du monde à l'extérieur de Montréal, par contre. Donc ça, c'est nouveau. Et puis, on a eu une grande presse aussi médiatique à l'extérieur. Et le fait que le festival a duré plus longtemps, donc ça nous a permis de rejoindre aussi beaucoup plus de monde de manière générale.
De manière générale. Est-ce que l'affluence vous satisfait donc?
Oui, l'affluence nous satisfait.
Et le fait de faire la transition entre le présentiel et le virtuel, ça a marché?
Oui, sur un certain point, ça a marché. Je ne dirais pas que c'est la méthode à suivre et pour les autres années, je pense que ce serait plus un partage. C'est sûr que c'est bien d'avoir l'aspect virtuel pour les gens qui ne peuvent pas se rendre à Montréal et puis pour garder une certaine connexion avec les gens à l'extérieur de Montréal qu'on a pu rejoindre. Mais aussi, en même temps, l'aspect présentiel est aussi important pour certains aspects, pour le sentiment communautaire d'échange également.
Alors là, je me tourne vers Alicia. Alicia a été à la tête d'une activité bien spécifique qui s'intitulait « Après l'humour, l'amour ». Deux points, speed dating. Racontez-nous un peu plus cet événement.
Alors, merci beaucoup d'avoir donné la parole. C'était un speed dating qu'on avait organisé pour les femmes recherchant d'autres femmes. Et c'était en même temps pour essayer de briser l'isolement pour la plupart, puisqu'on sait que pour les femmes, généralement, les espaces de rencontre les applications de rencontre ne sont pas tellement présents ou disponibles. Et ils sont, c'est différent par exemple de la communauté gay par exemple, où eux ils ont besoin plus d'une connexion, d'une différente façon. Ils ont besoin de plus parler avec la personne connectée, voir. Donc comme c'est virtuel cette année, on a mis en place un site qui permettait à ce moment-là de faire un speed dating et j'étais la co-animatrice de la soirée.
D'accord. Est-ce que ça a marché?
Oui, ça a vraiment marché, ça a eu un grand succès.
Alors, racontez-nous.
L'activité devait durer, je pense, si je me rappelle bien, une heure de temps et demi. Et finalement, ça a même dépassé le temps prévu.
À ce point-là.
Aller au-delà des 3 à 4 heures de temps. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point ça y est un franc succès. On a eu quand même beaucoup de retours positifs par rapport à cette activité.
D'accord.
Nouveau pour eux quand même.
D'accord.
Un speed dating virtuel.
Virtuel. Justement, puisque c'est virtuel, comment avez-vous fait la transition entre le présentiel et le virtuel? Dans ce cas-ci?
Alors, nous avons une très bonne équipe qui travaille très fort et qui sont quand même assez doués dans tout ce qui est technologie. Et maintenant, de nos jours, en 2021, il y a tellement de plateformes qui sont disponibles. Donc, j'ai eu également à découvrir la plateforme qu'on a eu à utiliser qui permettait en même temps de connecter les gens. Donc, c'était des petits salons. Il y avait des salons fermés comme des one-on-one si les gens voulaient parler plus discrètement. Il y avait des réunions comme des gens de table ronde où les gens pouvaient discuter ensemble d'un sujet. Mm-hmm. Et en chaque 7 minutes, nous donnions une question qui permettait de briser la glace et d'avoir un sujet pour discuter avec tout le monde. Donc chaque 7 minutes, on revenait avec une nouvelle question, on revenait avec un nouveau sujet pour débattre. Mm-hmm. Et ça permettait aux gens qui ne se connaissaient pas forcément de partager plusieurs points.
D'accord. Ouais. Il y a un mot qui revient souvent dans notre échange. Vous parlez de connecter. Est-ce que le fait que nous soyons en pleine pandémie et de couvre-feu nuit à cette connexion possible avec l'autre?
Absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, personnellement, je vis, si je parle pour ma personne, je mm-hmm. vis également ce manque de connexion palpable. Je suis une personne qui aime la connexion. Oui, c'est bien bon, les virtuels, mais parfois, c'est bien d'avoir des gens autour de nous, de pouvoir les toucher, les parler et de les entendre. Donc là, le fait que cette fois-ci, ça soit quand même virtuel, ben, ça permet aussi d'atteindre certaines personnes, puisque c'était surtout pas des gens de Montréal qui étaient là. Donc, à ma grande surprise, il y avait des gens de Québec, il y avait des gens de Toronto, de Ottawa, de Gatineau et même d'Haïti. Mm-hmm. Donc, il y avait des gens qui nous avaient rejoints d'un peu partout à ce speed dating. Donc, nous étions très contents de voir que ça a atteint pas juste à l'échelle de Montréal, mais vraiment un peu partout.
D'accord. Mais dites-moi, est-ce que la langue a nuit ou bien ça a facilité les choses? Parce que, bon, à Montréal, je sais qu'on parle plusieurs langues. Donc, est-ce que ça a été un avantage ou un inconvénient?
Ça a été je pourrais pas dire un avantage ou un inconvénient. Pour avoir assisté et a été la modératrice durant ce speed dating, la barrière de langue n'a pas été un problème, puisque la plupart du temps les gens parlaient les deux langues, le français ou l'anglais. Donc une des deux langues, si quelqu'un ne parlait pas le français à ce moment-là, la personne pouvait switcher. Donc il y avait pas vraiment de problème par rapport à ça.
D'accord. Alors, ma prochaine question s'adresse à vous deux. On va donner la priorité à Laurent, puisque je viens de converser avec vous un petit bout. Et là, comment vivez-vous votre situation dans un monde LGBTQ+, à Montréal en particulier? Laurent.
La question, c'est comment on vit.
Oui, comment vous vivez ça
d'être une personne de la communauté LGBT.
Oui, à Montréal. On va se limiter à
moi,
Montréal.
Moi, personnellement, je vis ça très bien, je dois dire. Et dans le milieu dans lequel je suis, je ne vis pas de gros conflits par rapport à ça. Donc, j'ai mes groupes d'amis. Dans ma famille, c'est toléré et accepté pour certains. Et j'ai mon copain. Donc, pour ma part, je n'ai pas de problème de vivre ça ici à Montréal. Je trouve que j'arrive à bien vivre à Montréal. Et que je sais que des fois, ça peut ne pas être le cas pour tout le monde, tout dépendamment. Et le rapport avec la famille, des fois, ou bien la perte de certaines personnes de la communauté, ça peut être difficile. Et je pense que dans certains emplois, ça peut être encore difficile de s'affirmer ouvertement dans certains lieux de travail.
Alicia.
Alors, pour ma part, c'est tout à fait le contraire de Laurent. J'éprouve beaucoup de difficultés dans différentes sphères, que ce soit au niveau de l'accès à l'emploi, l'accès aux soins, l'accès à un logement. Donc, en tant que femme trans noire, dont je vis plusieurs stigma, j'ai vu plusieurs difficultés, le fait d'être déjà une femme, ensuite d'être une femme trans et d'être une femme trans noire. Donc ça rejoint plusieurs intersectionnalités et nous sommes quand même, il faut le dire pour les gens qui ne savent pas, les personnes trans noires sont les personnes les plus marginalisées de la société. Donc c'est pour vous donner un peu une un aperçu de toutes les difficultés que nous avons au quotidien et que nous devons nous battre peut-être 3 fois ou 10 fois plus, parce que non seulement on a plusieurs barrières qui nous repoussent pour pouvoir évoluer comme si c'était une personne, comme si c'était un homme blanc hétérosexuel par exemple.
D'accord. Alors toujours à vous, la question s'adresse à vous deux, celui qui veut répondre y va. Et comment se manifeste cette difficulté-là et comment vous réussissez parfois à les contourner afin de d'assumer une pérennité?
Moi, je vais laisser Alicia répondre, parce que comme, et vu que moi, comme j'ai dit tantôt, de manière personnelle, ou je dis personnellement, je ne vis plus ce genre de conflit. Pour moi, les conflits, c'était plus au début, il y a 10-15 ans, quand je sortais du placard, quand je m'affirmais dans mon entourage et auprès de ma famille, c'était plus là qu'il pourrait avoir des conflits. Donc, pour cette partie-là, je vais laisser Alicia prendre la parole.
D'accord. Alicia?
Dans mon cas, je n'ai certes pas le soutien de ma famille. Donc déjà, pour mon cas personnel à moi, ma famille m'a renié du fait que j'ai accepté de vivre ma vie en toute authenticité. Donc je n'ai malheureusement pas le soutien de ma famille. Je pourrais dire quand même que on a une autre famille qui est la famille choisie. Donc c'est sûr que j'ai 2-3 personnes autour de moi qui sont là et qui m'épaulent et qui me soutiennent dans les épreuves, mais on va sans dire quand même que tout le monde a ses problèmes. Donc c'est sûr que ce n'est pas pour rajouter tout un fardeau en plus sur les autres, mais je pourrais dire quand même que moi j'essaie de me battre à tous les jours pour vraiment essayer de sensibiliser et donner plus, ouvrir l'esprit aux gens et de leur montrer que c'est normal, qu'il n'y a rien de mal à être Alicia, une femme trans noire, et que je suis une humaine comme toutes les autres.
D'accord. Un combat au quotidien. Et dites-moi, et la question s'adresse toujours à vous deux, et le fait de vous impliquer dans Massimadi, est-ce que ça facilite les choses? Est-ce que ça vous permet de mieux vous faire entendre? Ou bien c'est toujours un combat qu'il faut mener pour aller chercher sa place, même au niveau des arts?
Pour répondre, je vais faire un retour sur l'ancienne, profiter pour faire un retour sur la question précédente. Donc oui, c'est vrai que moi aussi, et pour pallier à la discrimination, tout ça, et pour mon bien-être, je me suis entouré de personnes qui m'acceptent aussi. Je me suis entouré de personnes qui m'acceptent, et puis comme Alicia disait, j'ai aussi mes amis qui sont comme une seconde famille choisie. Et oui, le fait de m'impliquer dans le communautaire, que ce soit avec Arc-en-Ciel d'Afrique et Massimadi, c'est vrai que ça a contribué à élargir mon cercle social et à trouver aussi des personnes qui comprennent ma réalité. Donc ça a contribué à mon bien-être personnel. Mais si vous parlez au point de vue communautaire, social, et il faut encore beaucoup lutter pour que les personnes noires de la communauté LGBT soient reconnues et prennent leur place socialement. On n'est pas encore rendu là. Bien qu'on voit de plus en plus de personnes, de représentations de personnes LGBT sur la scène culturelle québécoise, montréalaise, un peu plus, mais pour ce qui est des communautés noires, il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup de barrières beaucoup de murs à briser, au fait. Beaucoup de portes à frapper pour que les personnes noires puissent prendre leur place et être connues et jouir de leurs droits que la province et que la ville leur offre.
D'accord. Et dites-moi, Alicia, à part de co-animer cet atelier de speed dating, au niveau artistique en tant que tel, parce que je vais vous le dire sincèrement, hein, je vous ai croisé dans la présentation de plusieurs films particuliers au MAI, Donc, j'aurais aimé savoir au niveau artistique, et bon, oui, il y a des difficultés, nous, je pense, nous sommes confrontés à tout ça. Est-ce que au niveau, par exemple, il faut voir ma question dans un sens très large, est-ce que au niveau, par exemple, du Gala Dynasty, est-ce que cette année, je pense qu'ils ont eu une représentation LGBTQ+, est-ce que pour vous, c'est un pas en avant, ou bien c'est pas suffisant?
Alors, pour répondre à la toute première question qui est posée à tous les deux, moi, je ne suis pas vraiment très... je ne suis pas artiste. Je me définis pas en tant qu'artiste. Moi, mon implication au sein de Mastimadi, je suis la porte-parole. Donc, avant tout, je suis la voix de la Fondation. Donc, ça fait déjà 3 années que je siège à ce poste. Et pour moi, ça m'a apporté une certaine visibilité. Donc, Mastimadi m'a permis d'être plus visible et d'être entendue, de passer dans les entrevues, d'avoir des entrevues de podcasts, de radio. Donc, ça m'a permis, en fait, d'avoir une plateforme pour faire entendre ma voix.
D'accord.
Et maintenant, voilà, donc ça c'est, je pourrais dire peut-être dans mon sens à moi, mon côté artistique. Puis pour répondre à la question par rapport au Gala Dynasty, oui, donc je salue vraiment le Gala Dynasty pour leur, si je peux dire, grâce à leur... l'ouverture, si je peux dire comme ça, l'ouverture d'avoir mis cette année une catégorie de activistes militants de l'année. Donc, il y a eu plusieurs catégories nouvelles et il y a eu certaines personnes de la communauté, effectivement, LGBTQ qui ont été menées. Et j'espère que ça ne sera peut-être pas juste pour cette année, mais que ça va également être là pour les années à venir. Mais c'est un pas, en effet, en avant.
Merci beaucoup, Alicia. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour ce bel éclairage. Et dites-vous que tant que j'ai des émissions, ben je parlerai de l'organisme Mastimadi. Au plaisir.
Merci beaucoup.